Saint Padre Pio, priez pour nous. Voilà. Sans doute avez-vous remarqué que cette semaine, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, dans nos lectures, et que la semaine dernière, Jésus avait annoncé pour la première fois dans l'évangile de Marc, donc au milieu de l'évangile de Marc, c'est un tournant, annoncé pour la première fois sa passion, les disciples ne comprennent rien, et même Saint-Pierre, au nom de tous, en notre nom aussi, fait de vifs reproches à Jésus. Jésus qui va ensuite le recadrer en lui disant « Tes pensées sont celles du démon et des hommes. » Et des hommes. Donc les deux. Donc voilà, ils n'ont rien compris. Et puis un peu plus loin, donc nous sommes à la fin du chapitre 9, eh bien de nouveau, aujourd'hui, une semaine après, nous recevons l'évangile de Marc où Jésus annonce pour la deuxième fois sa passion. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, les apôtres comprennent rien, n'osent pas l'interroger. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ils se sont déjà habitués. Puisque, aussitôt après, ils marchent et ils commencent à discuter entre eux. Mais qui est le plus grand parmi nous? Je pense que Saint-Pierre était en bonne position. Mais Saint-Pierre n'était pas le plus intellectuel, donc c'était peut-être pas Saint-Jean qui était... Enfin voilà, on ne va pas faire tout le sketch, mais voilà. Qui est le plus grand? Et là, Jésus les interroge, puisqu'il sait ce qui se passe, les interroge et leur enseigne quelque chose d'important qu'il nous faut retenir pour nous qui voulons vivre en chrétien. Quelque chose d'important, c'est que celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le dernier et le serviteur de tous. Un appel à une véritable conversion de vie, d'humilité, qui n'est pas facile. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, je parle que pour moi. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de changer parce qu'on a tellement besoin de reconnaissance, de compliments, de succès. On a tellement besoin qu'on nous flatte, que c'est compliqué de prendre la dernière place et de se faire serviteur en sachant qu'on ne sera pas remercié. Il ne faut pas partir en se disant « je vais te remercier » parce que là, c'est déjà qu'on ne veut pas prendre la dernière place. Voilà. Et puis ensuite, Jésus continue en prenant un enfant et en disant « ben voilà, celui qui accueille un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Donc montrant l'exemple, l'importance d'accueillir l'enfant. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'au XXIe siècle, cette question de l'accueil de l'enfant semble ne nous interpelle pas comme il a pu interpeller les chrétiens pratiquement pendant 2000 ans, jusqu'à peu près au 19e siècle, l'enfant, ceux qui sont partis rejoindre le père Bruno pour leur petite homélie, eh bien, n'était pas vraiment bien perçu. Un enfant, c'était un sous-homme, c'était quelqu'un qui était un homme en devenir, mais qui n'était pas un homme, et donc on pourrait comparer, si je puis me permettre, je ne sais pas si c'est très adroit, on pourrait comparer l'enfant, enfin l'image que Jésus prend, aux personnes en situation de handicap ou en situation de pauvreté grave, méprisées, marginalisées. On pourrait comparer cela, on pourrait mettre cette image à la place, je pense, en partie. J'espère que je n'abuse pas, mais je pense qu'on peut le faire. Voilà. Alors, pour illustrer ces propos de Jésus, à la fois cette place d'humilité, cette nécessité d'accueillir le plus petit, le petit, eh bien, j'aurais dû parler du Padre Pio. Mais en fait, je n'y ai pas pensé. Parce qu'aujourd'hui, Padre Pio, c'est sa fête. Il se trouve que le Padre Pio, ça fait exactement 50 ans qu'il est mort. Il est mort en 1968, aujourd'hui. Donc, 50 ans, donc on pourrait parler de lui. Il se trouve qu'il y a 100 ans, en 1918, il recevait les stigmates. Il a vécu avec les stigmates sanglants, donc qui coulaient régulièrement, pendant 50 ans, qui a été analysé plusieurs fois. Et Padre Pio est quelqu'un d'exceptionnel à beaucoup de points de vue. Premier prêtre de l'histoire à être stigmatisé. Bizarrement, il n'y a aucun prêtre avant qui n'avait été stigmatisé, qui avait reçu les plaies de Jésus sur son corps, qui avait vécu avec. Et puis, c'est surtout un confesseur exceptionnel, hors pair, un modèle pour tous les prêtres, à la fois de patience, de discernement, de don de soi, etc. Et avec l'obéissance aussi. Enfin, je pourrais multiplier, mais je n'avais pas préparé avec le Padre Pio, mais je vous invite quand même à découvrir le Padre Pio. C'est sans doute un des saints qui a le plus marqué le XXe siècle. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un des saints les plus marquants, avec énormément de manifestations exceptionnelles, ce qui peut sembler rare, parce que finalement, quand on vit au quotidien, on ne voit pas tous les jours des stigmatisés, des gens comme ça. Voilà. Mais en tout cas, il a profondément marqué l'histoire de l'Église du XXe siècle, et on le verra, plus on avancera dans l'histoire, sans doute plus on verra le rayonnement de ce saint prêtre. Et je vous invite donc à faire connaissance avec lui, soit en lisant des livres, il y en a nombreux, soit simplement en lisant des résumés on peut trouver sur Internet, etc. Mais je voulais vous parler de quelqu'un qui lui, n'est pas mort, mais qui a quand même une vie que je pense on peut qualifier de sainte. Et je ne me mets pas à la place de l'Église, hein, c'est elle qui décidera plus tard quand il fera le grand passage. Je pense qu'il sera canonisé. Hein. Il fait partie des saints contemporains qui sont reconnus, qui sont repérables. Il s'agit de M. Jean Vanier, qui est un Canadien, qui a fêté cette année ses 90 ans, il y a quelques jours. Il a fêté ses 90 ans. Donc c'est un homme de grande compétence, hein, qui à l'âge de 13 ans est parti dans l'armée pendant la guerre. Il a demandé à son père a accepté, parti dans l'armée anglaise, je crois. Il fera quelques années comme ça, puis ensuite ça ne va pas le satisfaire. Il a donné sa vie, il a pris des risques, hein, il s'est mis en danger, à l'âge de 13 ans déjà. Il s'est mis en danger, et ensuite ça ne va pas le satisfaire. Et donc il va ensuite faire tout un cheminement spirituel, un homme de foi, hein, évidemment, tout un cheminement spirituel. Et il va finir, après avoir fait des études et être professeur, il fera des études de philosophie, qui vont lui permettre d'avoir un doctorat de philosophie sur l'éthique d'Aristote. Et donc ensuite, il va fonder l'arche, qu'on appelle communément l'arche de Jean Vanier, qui donc accueille les personnes en situation de handicap mental, hein, donc des gens souvent difficiles à accompagner, à accueillir. Donc l'arche de Jean Vanier, qui va avoir un gros succès, puisque aujourd'hui, il y a à peu près 5 000 membres et 150 foyers. Et puis il va aussi fonder Foi Lumière. Enfin bon, je pourrais. En tout cas, il a un grand rayonnement. Dans l'interview, j'ai lu plusieurs interviews pour préparer un petit peu quelques éléments. Dans l'interview qu'il disait, il disait les foyers vont bien. Il disait je crois que les foyers vont bien. C'est donc il faut quand même se réjouir de cette œuvre de Dieu, sachant qu'énormément de personnes en situation de handicap mental peuvent être accueillies dans ces foyers, peuvent vivre une vie. Une vraie vie peut être considérée. Alors, qu'est-ce que nous enseigne Jean Vanier ? Je vais simplement élever plusieurs points. Le premier, c'est vraiment en lien avec l'évangile de Jésus qui nous dit qu'il faut accueillir l'enfant, donc le petit. Hein. Et Jean Vanier dit ceci, vous trouverez facilement sur Internet cette phrase, il dit, vous savez, c'est le monde qui est à l'envers et c'est l'évangile qui est le monde à l'endroit. Le monde est à l'envers parce qu'il propose des valeurs qui ne sont pas les vraies valeurs, ce n'est pas les bonnes valeurs, les valeurs de la normalité, où on doit tous être pareils, que les meilleurs gagnent, que l'on soit dans la réussite. Il dit non, c'est l'Évangile qui est le monde à l'endroit. L'Évangile nous dit, le monde est à l'envers à cause du péché. À cause du péché originel, à cause du péché actuel de chacun. Le monde est à l'envers à cause de cela, parce que nous le laissons faire. Mais c'est l'Évangile qui est le monde à l'endroit. Si on veut savoir comment construire le monde tel qu'il devrait être, eh bien, il nous faut lire l'Évangile et le mettre en pratique. Alors, il dit ceci, il dit, eh bien, il faut commencer par se changer soi-même. Je dois changer, dit-il. Je dois changer. Ça, c'est un premier travail. Il faut travailler, ça correspond très bien avec ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est le phénomène de la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si chacun met une goutte dans un espace, eh bien, on peut faire un étang grâce aux réseaux sociaux de connexion entre nous. Eh bien, de la même manière, de façon différente, il dira, si moi je change et si d'autres changent, eh bien, les choses changeront, le monde changera, le monde se remettra à l'endroit. Alors, en premier lieu, il nous invite à nous connaître nous-mêmes et à nous aimer nous-mêmes, à aimer notre réalité dans son corps, à aimer son propre corps, et on sait que ce n'est pas toujours facile, à aimer son propre corps, son être, dans sa fragilité. Nous sommes fragiles, il faut l'accepter. Et il dit, si on regarde bien l'être humain, il naît fragile, tout petit et fragile, et il meurt vieux et fragile. Nous sommes des êtres fragiles. Il nous faut nous aimer avec cette réalité de la fragilité. Il nous faut aimer notre corps. Il nous faut avoir conscience de notre propre histoire, connaître nos qualités, nos défauts, ce qui nous a construits, les joies, les peines, les difficultés de notre vie. Il faut découvrir même notre inconscient, chercher, se connaître soi-même. Hein, c'est très traditionnel dans l'Église. Hein. Il faut oser parler de ses difficultés. Nous sommes très forts, dit-il, pour favoriser l'idéologie de la normalité. Tout le monde pareil, contrairement à ce que nous dit la société, nous cherchons à être tous normaux. Une idéologie de la normalité, alors qu'il nous faut travailler à l'accueil de la différence. Il faut parler, oser parler de ses propres difficultés, sinon, dit-il, on peut fuir dans des compensations comme l'alcool, les drogues, etc. Il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir, ne pas avoir peur de l'échec. C'est normal, ça fait partie. On a tendance à juger parce qu'on cherche spontanément à réussir. Nos jugements, dont nous parle la deuxième lecture, d'ailleurs, l'épître de Jacques, nos jugements, tout cela, nos comparaisons, c'est parce qu'on cherche à réussir. On cherche à être normal et en plus à réussir tout. On veut être parfait, on veut bien passer dans au sein de notre entourage, etc. Et donc, il nous faut apprendre à nous accepter comme nous sommes, avec nos qualités, nos défauts et notre fragilité et notre corps tel qu'il est. Et puis, il faut écouter le désir profond de son être et le suivre. Et ça, c'est pas évident. Surtout, alors c'est valable pour tout le monde, mais je pense que pour les jeunes, c'est particulièrement important. On a envie de quelque chose de fort, d'aller au bout de notre vie, d'avoir une belle vie. Et donc cela, eh bien, ça demande d'oser faire des pas, et parfois des pas de renoncement. Il faut oser suivre notre désir profond au-delà des pressions sociales que nous pouvons avoir autre. Et puis, il faut se souvenir que l'on va mourir un jour. C'est une réalité, dit-il. C'est la réalité de notre vie. Il faut se souvenir qu'on va mourir. Et que finalement, il faut vivre bien aujourd'hui. Vraiment goûter la vie aujourd'hui. La vivre à fond. Et donc, alors il continue, mais je vois que le temps passe, il continue en disant, il faut rencontrer l'autre. La base pour se trouver, c'est de rencontrer. Il faut arrêter les préjugés et aller à la rencontre de l'autre, devenir libre, libre de rencontrer l'autre. Et là, on trouve des trésors. La rencontre entre la force et la faiblesse peut permettre une interaction où le faible trouve une certaine sécurité pour vivre, le petit, le faible, et où le fort apprend à accueillir sa propre vulnérabilité et à découvrir le sens véritable de la vie humaine, le sens vrai de la vie humaine. Voilà, il faut prendre le temps de la relation, prendre le temps de s'intéresser à l'histoire de l'autre. Il prend l'exemple d'un jeune qui meurt d'overdose et qui dit à un proche, il dit « Tu as toujours voulu me changer, mais tu n'as jamais voulu me rencontrer. » Il nous faut apprendre à nous rencontrer tels que nous sommes, voilà. Voilà, à sortir de l'efficacité. Je termine, parce que je n'ai pas plus de temps, goûter l'instant présent aussi. Je vous le dis quand même, parce que c'est quelque chose, il le dit, il a 90 ans, il dit « Je vais bientôt mourir, mais aujourd'hui je suis heureux de vivre la vie présente. » Et c'est ce que nous sommes invités à faire. Tout ça, c'est être chrétien, c'est être humain, c'est être chrétien. C'est l'Évangile qui nous montre comment on peut mettre le monde à l'endroit et notre vie à l'endroit. Alors, je termine par une citation. Vous n'avez pas peur d'être saint, dit le journaliste. Il répond, la sainteté ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'être un ami de Jésus. Silence. Je veux être avec lui quelque part, je ne sais pas où. Jésus est pauvre, humble. Je souhaite être avec lui dans la pauvreté, toujours dans la pauvreté. C'est la seule chose. Le secret est toujours dans la descente et non dans la montée. C'est accepter qu'on est fragile. Nous ne sommes pas toujours ce que nous souhaiterions être, même avec Jésus. Nous avons besoin d'un Jésus qui nous rattrape quand nous nous éloignons. Il est extraordinaire, Jésus, dans sa capacité d'aimer. Le seul grand danger aujourd'hui, c'est le phénomène du besoin de réussite, qui commence dans les écoles. Bon, je suis désolé pour... Il y a un problème de lutte entre le succès et l'acceptation de ce que l'on est, avec sa propre mission. On voit une sorte de contradiction entre la société et la vie chrétienne. Jésus, lui, est si humble et si petit. Le monde est à l'envers, l'évangile, c'est le monde à l'endroit. C'est une révolution copernicienne. Fin de citation. Voilà, demandons au Seigneur que, pendant cette année pastorale, eh bien, nous en profitions pour pouvoir cheminer dans notre vie chrétienne, vraiment oser retourner les situations, oser vivre selon les vraies valeurs de l'évangile, et mettre ainsi, contribuer à mettre ainsi le monde à l'endroit. Amen.